de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que les journaux,
les infos de l'Indonésie,
l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici le journal et on commence avec les titres. La Corée du Sud convoque un diplomate japonais au sujet des revendications de l'île de Dokdo. Le ministère de coordination des affaires économiques de la République d'Indonésie et le ministère australien se réuniront à Batam. Le président a souligné l'engagement de l'Indonésie à construire des industries chimiques et énergétiques. Chers amis, nous présentons maintenant le journal en complet. Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a convoqué vendredi un diplomate japonais pour protester contre les revendications du Japon sur l'île de Dokdo dans la mer de l'Est, répertorié dans un rapport officiel annuel sur la défense publié le même jour. Le directeur général des Affaires Asie-Pacifique au ministère sud-coréen des Affaires étrangères, Seo Ming-jeong, a convoqué Mondo Yamamoto, le chef adjoint de l'ambassade du Japon à Séoul, pour protester après que Tokyo a adopté vendredi son dernier rapport officiel sur la défense. Dans le rapport, Tokyo a renouvelé sa revendication de souveraineté sur Dokdo pendant 19e année consécutive. Dokdo a longtemps été en source de tensions entre les deux voisins après que le Japon a continué à transmettre des revendications de souveraineté dans les rapports officiels du gouvernement, déclarations publiques et à l'école manuelle. Entité commerciale de Batam sera l'hôte de la rencontre bilatérale entre le ministère de coordination des affaires économiques de la République d'Indonésie et le ministère australien du commerce. Le chef du bureau des relations publiques, de la promotion et du protocole de BP Batam, Arya Suti Sirait à Batam, les îles de Riau, a déclaré vendredi que la réunion avait été discutée par une équipe du ministère de coordination des affaires économiques lors d'une visite à BP Batam le 27 juillet 2023 et il est prévu que les deux agences se rencontrent à Batam le 23 août 2023. Arya Suti Sirait a déclaré que lors de la réunion, BP Batam aiderait le ministère de coordination de l'économie de la République d'Indonésie et le ministère du commerce australien a sélectionné les lieux à visiter à Batam. Selon lui, cette réunion pourrait ouvrir des grandes opportunités d'investissement, notamment de l'Australie à Batam. Le président indonésien Joko Widodo a souligné l'engagement de l'Indonésie à développer les industries chimiques et énergétiques lors de sa rencontre avec les dirigeants d'entreprises chinoises à Chengdu, en République populaire de Chine, vendredi. Le président Joko Widodo, dans son communiqué de presse cité par Antara vendredi, a souligné que l'Indonésie s'est engagée à développer les industries chimiques et énergétiques, notamment dans le nord de Kalimantan. Pour cette raison, le gouvernement indonésien a publié des réglementations concernant les politiques industrielles nationales qui sont considérées comme importantes pour soutenir l'objectif d'atteindre une économie verte. Le président a également déclaré que les chefs d'entreprise présents joueraient un rôle dans le développement de l'industrie chimique en Indonésie. Selon le président, l'Indonésie vise à devenir le plus grand producteur pétrochimique d'Asie. Au cours de la réunion, le président Joko Widodo a également apprécié l'investissement réalisé par un certain nombre d'entreprises présentes dans la construction de zones industrielles dans plusieurs régions d'Indonésie, y compris dans la construction d'une raffinerie pétrochimique à Kalimantan. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le ministre du Tourisme et de l'Économie créative, M. Sandiaga Salahuddin Uno, invite les entrepreneurs et les acteurs de l'économie créative à appliquer le principe 3SI, à savoir l'innovation, l'adaptation et la collaboration. Sandiaga Uno à Batam a déclaré samedi, son parti continue à accroître la numérisation des micro, petites et moyennes entreprises nationales. Selon le ministre Sandiaga Uno, actuellement environ 20 millions de MPME qui ont été digitalisés sur la plateforme e-commerce en 2023, sur l'objectif de 30 millions jusqu'au début 2024. Il a souligné cette économie créative avec une petite touche marketing et capital, ils peuvent pénétrer le marché national et international. Le chef du représentant commercial de la Fédération de Russie en Indonésie, Alexander Svina, a déclaré son engagement à renforcer le commerce avec l'Indonésie, notamment avec la province de Java orientale. La coopération de la Russie avec l'Indonésie, y compris avec la Chambre de commerce et d'industrie de Java orientale, a en fait été établie pour depuis longtemps. C'est ce qu'a dit Alexander Svina lors d'une visite à la Chambre de commerce et d'industrie à Graha Kadin Java Est vendredi. Selon Svenang, les nombreuses entreprises russes ont été facilitées par l'Assemblée de commerce et d'industrie de Java orientale dans diverses activités, ainsi que des entreprises de Java orientale participent souvent aux activités russes. Il a ajouté un certain nombre de produits considérés comme potentiels de coopération sont les produits agricoles, maritimes, fertilisants et divers produits pour les besoins quotidiens de la population ainsi que des aliments et les boissons. Le directeur général de la coopération multilatérale du ministère des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, M. Tri Tariat, a déclaré que l'Indonésie poursuivait trois priorités au cours de sa direction dans le groupe de MICTA, des pays de moyenne puissance cette année. Cela a été dit par Tri Tariat dans une discussion tenue par la communauté de politique étrangère indonésienne en ligne à Jakarta vendredi. MICTA est un groupe de pays de moyenne puissance composé du Mexique, de l'Indonésie, de la Corée du Sud, de la Turquie et de l'Australie. Les pays membres de MICTA ont une diversité géographique, culturelle, linguistique et religieuse. Au milieu de la concurrence mondiale entre les grandes puissances, Tri Tariat considère que les pays de moyenne puissance comme MICTA ont un rôle important à jouer pour assurer la paix et la stabilité. Dans sa direction au MICTA cette année, l'Indonésie poursuit trois priorités, y compris les efforts pour renforcer le multilatéralisme. La prochaine priorité est les efforts pour réaliser une reprise inclusive. Pendant ce temps, la troisième priorité est la transformation numérique. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique Les Nouvelles de l'Indonésie. Les premières nouvelles sont venues de Banjarnegara dans la centre de Java. Le gouvernement de Java Central, M. Ganjar Pranowo, a inauguré mardi le lycée professionnel d'État de Pagentan Eng, Banjarnegara, qui a deux spécialités, à savoir le département des nouvelles énergies renouvelables et de l'électricité. Ganjar a déclaré que l'existence de la nouvelle école professionnelle, outre la préparation des ressources humaines supérieures, est aussi une solution pour l'accès à l'éducation dans la région. Il a également encouragé les diplômes du lycée professionnel d'État de Pagentan 1 à pouvoir devenir des travailleurs pour des entreprises de fournir des véhicules électriques à batterie. Et selon lui, l'existence du lycée et d'autres écoles professionnelles soutiendra les efforts en aval menés par le gouvernement indonésien. Le gouvernement provincial de l'Ouest de Sumatra vise à faire venir un millier de juleha ou les abatteurs halal pour soutenir le développement du concept de tourisme halal dans la région. Le gouverneur de Sumatra, Mahyildi, a déclaré mercredi à Padang que la disponibilité des abatteurs halal était importante pour assurer la disponibilité de la consommation halal dans la province qui avait lancé le tourisme halal. Il a déclaré que l'un des devoirs du gouvernement pour soutenir le tourisme halal est de veiller à ce que chaque produit soit garanti hygiénique et halal, notamment pour les produits culinaires qui doivent respecter la loi islamique, tant au niveau du contenu que de la transformation. Selon lui, le système d'abattage halal est aussi apprécié des communautés non musulmanes et il n'y a pas d'obstacle pour elles parce que l'abattage halal profite aux produits animaux consommés, notamment en termes de propriété. Par ailleurs, le monde international est aussi très soucieux de savoir comment abattre les animaux afin que la perfection de sa mise en œuvre produise une viande de bonne qualité. Selon lui, les abatteurs halal sont un métier qui peut être largement utilisé parce que l'abattage halal est devenu un mode de vie. Le chef du bureau de l'élevage et de la santé animale de l'Ouest de Sumatra, M. Soekarli, a déclaré que l'objectif de créer un millier d'abatteurs halal sera atteint en 2026. D'ici la fin de 2023, il est prévu qu'un total de 338 abatteurs halal aient été formés. Les dernières nouvelles sont venues de Pacitan dans l'est de Java. Le consortium Kangen Pacitan et la Direction générale de la culture du ministère de l'Éducation, de la culture, de la recherche et de la technologie organiseront le festival de Rawat Jagat le 29 juillet 2023 sur le thème « La nature et l'environnement à Pacitan, Java oriental ». Abdullah Yusuf du consortium Kangen Pacitan dans un communiqué officiel à Jakarta mercredi a déclaré que ce festival était la tradition des habitants de Pacitan qui célébraient l'action de grâce à Dieu ainsi qu'un rappel de prendre soin et de maintenir l'équilibre de la nature. Rawat Jagat est présenté sous la forme d'un festival en tant qu'événement culturel non seulement pour faire encourager l'écosystème culturel de Pacitan, mais aussi comme une manière créative de faire collaborer la tradition avec les arts de la scène contemporaine. Abdullah a ajouté que ce festival pourrait être apprécié par tous les niveaux de la société, y compris les voyageurs et les touristes visitant Pacitan. Le festival qui se tenait pendant une journée à Pacitan présente une variété d'arts de spectacle, à la fois traditionnel et moderne, et des spectacles musicaux sur quatre autres scènes de spectacle fournis par les organisateurs. Chers amis, c'était la rubrique Les Nouvelles de l'Indonésie.
voix de l'Indonésie revient à la tenue du Voice International Quiz 2023. Cette année, le quiz international Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie 2023 est sous la forme d'un concours d'écriture. Écrivez un essai sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, d'une longueur de 700 à 800 mots, Arial 12 et 16 ans, enregistrement dans la forme d'audio, concours de rédaction ouvert du 10 avril au 20 août 2023. Envoyez votre essai et les résultats de l'enregistrement audio par courriel voicequiz2023@gmail.com. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix de l'Indonésie. Le gagnant sera annoncé dans le moment 78e journée de radio, le 11 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devenez l'un des gagnants.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire aujourd'hui. Le 29 juillet 1947, ENIAC, le premier ordinateur numérique entièrement électronique au monde, entre en service. L'intégrateur et calculateur numérique électronique, ou ENIAC, a été développé et construit par l'armée américaine pour le laboratoire de recherche sur l'armement dans le but de calculer des tables de tir d'armes. L'idée de ENIAC a été pensée et conçue par J. Presper Eckert et John William Moseley de l'Université de Pennsylvanie. L'ordinateur a commencé à être construit le 17 mai 1943 sous le nom de projet PX et a été construit à la Moore School of Electrical Engineering depuis le milieu de 1944 et a été officiellement utilisé depuis février 1946 après avoir coûté $500,000 américains. Il a ensuite été arrêté le 9 novembre 1946 pour renouveler et améliorer la mémoire. ENIAC a été présenté au public le 14 février 1946 à l'Université de Pennsylvanie et a déménagé à Aberdeen Proving Ground, Maryland le 1947. Le 29 juillet 1947, ENIAC a été mis sous tension et a continué à fonctionner jusqu'à 23h45 le 2 octobre 1955. ENIAC a été présenté au public le 14 février 1946 à l'Université de Pennsylvanie et a déménagé à Aberdeen Proving Ground, Maryland le 1947. Le 29 juillet 1947, ENIAC a été activé et continué à fonctionner jusqu'à 23h45 le 2 octobre 1955. Le 29 juillet 1958, le président des États-Unis, Dwight Eisenhower, a adopté la loi nationale sur l'aéronautique et l'espace, marquant la création de l'institution non militaire, l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace, ou NASA. NASA est l'agence indépendante du gouvernement fédéral des États-Unis, responsable du programme spatial civil et la recherche aéronautique et spatiale. Le président Eisenhower a fondé la NASA en 1958 dans le but de faire passer les besoins de la société civile avant ceux de l'armée et les utiliser comme programme de paix dans les sciences aérospatiales. La NASA remplace le Comité consultatif national de l'aéronautique, Depuis son fondation, la majeure partie de l'exploration spatiale des États-Unis a été dirigée par la NASA, y compris les missions Alunissage ou Apollo, la station spatiale Skylab et plus tard la navette spatiale. La NASA soutient la station spatiale internationale et supervise le développement de la sonde spatiale Orion, du système de lancement spatial et de l'équipage commercial. La NASA est également responsable du programme de service de lancement qui assure la supervision des opérations de lancement et la gestion du compte à rebours pour les lancements de NASA sans pilote. NASA est officiellement opérationnel le 1er octobre 1958. Le jour du service des Forces armées nationales indonésiennes de l'armée de l'air est commémoré chaque 29 juillet. Le contexte de la journée du service de l'armée de l'air indonésienne ne peut être séparé des événements majeurs qui ont une signification profonde sur les soldats de l'armée de l'air indonésienne. Entre autres, la mort de trois pionniers de l'armée de l'air indonésienne, à savoir le commandeur junior de l'air Adi Sucipto, le commandeur junior de l'air Abdurrahman Saleh et l'officier junior de l'air Adi Sumarmo. Ils sont morts lors de l'embarquement de l'avion Dakota VT-CLA et transportés des médicaments de la Croix-Rouge Malaise, a été abattu par un avion néerlandais Kitty Hawk et s'est écrasé dans le village de Ngoto à 3 km au sud de Yogyakarta. Les événements de la mort des figures et des pionniers de l'armée de l'air indonésienne ont ensuite été commémorés comme le jour de deuil de l'armée de l'air depuis 29 juillet 1955. Puis depuis le 29 juillet 1962, pour commémorer et perpétuer cet événement, il a été changé en journée du service de l'armée de l'air indonésienne. Tous les membres de l'armée de l'air indonésienne la commémorent de manière centrale à la base aérienne Adi Sucipto. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Kamu bilang cinta.
C'était la première chanson indonésienne. J'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Merci d'être fidèle à notre antenne, la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique Mon Indonésie. Intitulé, le président indonésien Joko Widodo a mis l'accent sur la coopération avec la Chine. Le président de la République d'Indonésie, Joko Widodo, a souligné des coopérations entre l'Indonésie et la République populaire de Chine lors d'une réunion bilatérale avec le président Xi Jinping à l'hôtel Jinyu Chengdu jeudi 27 juillet 2023. Certaines des coopérations qui ont été discutées par les deux chefs d'État comprenaient le renforcement du commerce, l'investissement, la coopération dans le secteur de la santé, la coopération dans le développement de la capitale de l'archipel ou IKN, la coopération dans la recherche et la technologie. Le président Jokowi a apprécié l'achèvement du protocole d'importation pour les produits entre l'Indonésie et la Chine. Il a déclaré qu'à l'avenir, l'Indonésie devait continuer à faire pression pour des mises à jour du protocole et une augmentation de quotas d'importation de nitrohirondelle, y compris la finalisation du protocole d'importation pour les produits marins indonésiens. Au cours de la réunion, le président Joko Widodo et le président Xi Jinping ont également discuté de plusieurs questions régionales, notamment la coopération ASEAN-Chine, avec le soutien de la République populaire de Chine à la centralité de l'ASEAN pour créer une région Indo-Pacifique paisible et prospère. Après la réunion, les deux présidents ont également assisté à la signature d'un certain nombre de documents de coopération convenus par les deux pays. Entre autres, le protocole sur les exigences d'inspection et de quarantaine pour les exportations de poudre de cognac de l'Indonésie vers la Chine et le protocole sur les exigences phytosanitaires pour les exportations de tabacère de l'Indonésie vers la Chine ainsi que d'autres documents. En outre, deux documents de coopération ont été signés circulairement, à savoir le protocole d'accord sur l'enseignement de la langue chinoise et le protocole d'accord sur la coopération économique et technique. Lors d'une réunion d'affaires avec la Chambre de commerce indonésienne en Chine et un certain nombre d'hommes d'affaires chinois à l'hôtel Shangri-La, Chengdu le vendredi 28 juillet. Au cours de la réunion, le président a souligné l'engagement de l'Indonésie à maintenir l'investissement stable et fonctionne bien. Le chef de l'État a demandé aux investisseurs de ne pas hésiter à faire part des contraintes rencontrées lorsqu'ils investissent en Indonésie. Le président a également déclaré que le gouvernement indonésien est ouvert à accueillir toutes les informations concernant les problèmes rencontrés par les investisseurs afin qu'ils puissent être résolus. Le chef de l'État a également mentionné qu'actuellement un certain nombre d'investisseurs chinois ont investi en Indonésie. En outre, le président a également transmis des priorités d'investissement qui sont faites par l'Indonésie, y compris l'écosystème de véhicules électriques et les nouvelles énergies renouvelables. Concernant l'énergie nouvelle et renouvelable, le président a déclaré que l'Indonésie souhaitait encourager les investisseurs chinois à participer aux investissements. Chers amis, c'était la rubrique Mon Indonésie de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Voice of Indonesia.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
sebuah kata cinta hingga saatnya tiba kita bertemu. Tak hanya mengerti ku rasakan cinta, ingin ku katakan meski masih ku ragu karena selama ini ku acuhkan perasaanku.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Bon, chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Bonjour, bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici magazine culturel. Cette fois, nous allons vous présenter Geplak, un aliment spécial de Bantul, Yogyakarta, Java Central. Geplak est un aliment spécial de Sri Hardono, Pundong, Bantul. C'est un aliment traditionnel comme l'icône culinaire dans la ville de Bantul, Yogyakarta. Cet aliment à base de noix de coco râpée et de cassonade ou bien de sucre granulé. Sa forme unique et son goût distinctif rendent cet aliment très apprécié du public et des touristes. La La particularité de ce gobelet est sa forme ronde et ses couleurs colorées comme un arc-en-ciel. Le goût de la noix de coco râpée mélangée à la douceur donne à ce plat un goût distinctif. Dans le processus de fabrication de gobelet, la viande de noix de coco est d'abord trempée dans l'eau de noix de coco jusqu'à ce que l'huile ait disparu. Et ensuite, la chair de noix de coco est lavée et râpée, ensuite cuite avec du sucre et du colorant alimentaire, puis refroidie et façonnée en une forme ronde. Après cela, il est emballé. Au début, le plat n'était que blanc et marron. La couleur blanche utilise généralement du sucre de canne, tandis que la couleur brune est généralement fabriquée à partir de cassonade. Actuellement, il y a beaucoup de nouvelles créations en termes de couleurs et de goût dans la fabrication de ce gobelet. Les couleurs de gobelet qui n'étaient que deux couleurs sont devenues le rouge, le jaune, le vert et le blanc, et aussi le marron. Le goût est aussi plus varié, des saveurs de gingembre, cacahuètes, fraises, durian et les autres. Gobelet est généralement emballé à l'aide d'un bessec, qui est un récipient en bambou tressé, en forme de coupe et doté d'un couvercle. Dans un pack de bessec contient généralement beaucoup de gobelet coloré. Maintenant, cette nourriture typique de Bantul peut également être trouvée dans divers centres de souvenirs à Yogyakarta. Si vous visitez Yogyakarta, n'oubliez pas de goûter les délices culinaires locaux légendaires. Chers amis, c'était Magazine Culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta, intitulé Gobelet est un aliment spécial de Bantul, Yogyakarta. Merci à tous, à bientôt.
Jalan derita tidak pernah kuduga ini semua terjadi. Janganlah engkau menghancurkan segala setelah lawan kita mengarungi bersama. Kita yang suci di lambung ombak garam di lautan berduri. Hanya satu pintaku, semoga kau perbaiki. Sejak dulu lagi, pengorbanan tiada pernah jemu. tiada pernah jemu.
Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Chers amis de quatre coins du monde, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter le Festival du tourisme de Likupang 2023. La région de Minahasa du Nord, dans le nord de Sulawesi, organisera un événement international intitulé le Festival du tourisme de Likupang 2023. Cet événement se tiendra sur la place de Paal, qui est actuellement la zone économique spéciale de Likupang, du 29 au 31 juillet 2023. Femi Pankirigo, le chef de l'Office du tourisme de l'Agence de Nord de Minahasa, a déclaré que le Festival du tourisme de Likupang 2023 se concentre sur le développement du tourisme, de la culture, de la sagesse locale, et de l'autonomisation des micro, petites et moyennes entreprises dans la région du nord de Minahasa. On espère que cet événement deviendra un forum pour promouvoir Likupang afin qu'il soit de plus en plus connu, aider la croissance économique de la communauté locale et diffuser des informations sur le caractère unique du tourisme à Likupang, comme le potentiel du tourisme marin avec des parcs marins et une culture locale unique. Lors de ce festival, les personnes qui ont assisté ont été présentées avec divers types de performances, y compris les arts et la culture, les costumes nationaux, les expositions de micro, petites et moyennes entreprises, les compétitions de duathlon, les compétitions de bateaux décoratifs, les défilés de voitures décoratives, les concerts de kulintang, les performances d'artistes nationaux et d'autres intéressantes compétitions, telles que les compétitions de bateaux décoratifs, les compétitions de bateau-veau ou natation, le plus long grillade de poissons et de maïs, les compétitions artistiques et les compétitions culturelles. Surtout pour la compétition de natation, il existe deux types de courses, à savoir pour les hommes et les femmes. Pour le concours de bateau-veau, les participants couvriront une distance de 100 mètres, 50 mètres de la place à la mer et 50 mètres vice-versa. En plus des concours et des activités artistiques, le Festival du tourisme de Likupang 2023 et aussi l'événement permettant aux MPME des secteurs du tourisme et de l'économie créative de s'impliquer activement. L'exposition au Festival du tourisme de Likupang 2023 sera l'occasion pour les acteurs de l'industrie culinaire, artisanale et de la mode de présenter leurs produits. La région de Minahasa du Nord présentera de la nourriture et des collations. Pour l'artisanat, des produits artisanaux seront présentés à partir des déchets dérivés de la noix de coco, du coco à la coque, sous forme de souvenirs. Il y a aussi un défilé de mode de marques locales. L'objectif est de mieux faire connaître les produits des populations locales et de promouvoir le tourisme de Likupang. Au Festival du tourisme de Likupang 2023, il peut accueillir jusqu'à 55 000 visiteurs, touristes étrangers et touristes nationaux. Chers amis, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous, à bientôt.
Manisnya senyumanmu membekas dalam kalbu. Kini ku rasa ku telah jatuh cinta pada sosok malaikat yang tiada bersaya. Itu kamu di dalam hatiku, kamu bidadari surgaku. Oh, maukah kamu menjadi pendamping dalam hidupku yang akan selalu temani hidupku ini, dan kan ku berikan semua taman surga. Jatuh cinta pada sosok malaikat yang tiada bersama.
La voix de l'Indonésie revient à la tenue du Voix International Quiz 2023. Cette année, le quiz international Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie 2023 est sous la forme d'un concours d'écriture. Écrivez un essai sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, d'une longueur de 700 à 800 mots, Arial 12 et 16 ans, enregistrement. Dans la forme d'audio, concours de rédaction ouvert du 10 avril au 20 août 2023. Envoyez votre essai et les résultats de l'enregistrement audio par courriel voicequiz2023@gmail.com. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix de l'Indonésie. Le gagnant sera annoncé dans le moment 78e journée de radio, le 11 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devenez l'un des gagnants.
From Indonesia, to the world.
Voilà la dernière chanson que vous écoutez et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, voici le magazine musical. Dans cette édition, nous vous présentons une chanson de Keroncong intitulée « Setia Menunggumu » chantée par Fabio Asher accompagné de Gempo Gendes. La chanson d'un musicien indonésien de Kota Mobagu, Sulawesi du Nord, à savoir Fabio Asher, a été sortie le 2 janvier 2023, créée par Fabio Asher, Trakas et Yafi Arya. La chanson « Setia Menunggumu » raconte des sentiments blessés de quelqu'un à cause de l'amour non réciproque. Non seulement il a été rejeté, mais la personne qu'il aimait, elle aime quelqu'un d'autre. Mais il espère toujours que son amour sera accepté un jour, ce qui est décrit dans les paroles de la chanson, à savoir « Setia Menunggumu » en français « T'attends fidèlement ». Bon, chers auditeurs, voici Fabio Asher avec Gempo Gendes, dont le titre est « Setia Menunggumu ». Bonne écoute! Chers auditeurs, voilà l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.